Chapitre 25. La ville qui ne dort jamais. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles. Les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. Jay McInerney. Pendant ce temps, à New York. Rien à faire. Jim ne répond pas, constata Madeline en raccrochant son téléphone tandis que leur taxi se garait devant un petit restaurant de Greenwich Village. Jonathan lui ouvrit la portière de la voiture. Pas étonnant, il est 5h du matin à Manchester. Votre Jim est encore au pieu, c'est tout. L'enquêtrice suivit le Français à l'intérieur de la brasserie. Dès leur arrivée, le maître des lieux reconnut l'ancien chef.
« Jonathan, c'est toujours un honneur, tu sais. Content de te revoir, Alberto. »
Le patron les installa à une petite table près de la fenêtre.
« Je vous apporte deux Special Ones, » dit-il en s'éclipsant.
Une nouvelle fois, Madeline appela le numéro de Flaherty sans plus de succès que précédemment. Quelque chose clochait. « Jim est un bourreau de travail. » Le connaissant, avec ce que vous lui avez raconté, il a dû jouer de toute son influence pour diligenter l'intervention de la scientifique. Et à l'heure qu'il est, il devrait avoir les premiers résultats.
Nous sommes à 2 jours de Noël. Les services tournent au ralenti, vous le rappellerez demain matin.
Lui concéda Madeline. Au fait, où avez-vous prévu de me faire dormir? Parce que, je vous préviens, je suis crevé et...
Ne vous en faites pas. On ira chez Claire.
Claire Lisieux? Votre ancienne sous-chef à l'Impérator?
Oui, elle a un appartement pas loin d'ici. Je l'ai appelée pour lui demander l'hospitalité.
Ça tombe bien, elle n'est pas à New York pour Noël. Où travaille-t-elle à présent?
À Hong Kong, dans un des restaurants de Joël Robuchon.
Madeline éternua. Jonathan lui tendit un mouchoir en papier. Alice est peut-être en vie, pensa-t-elle, les yeux brillants. Bouleversée par les révélations de Jonathan, elle cherchait à faire taire sa voix intérieure, se forçant à réfréner son excitation, refusant encore de s'enflammer avant d'avoir reçu des preuves tangibles.
« Chaud devant !»
cria Alberto en apportant la spécialité de la maison. Deux hamburgers saignants, dans un pain croustillant, agrémenté de petits oignons, de cornichons et de patates sautées. Situé au nord de Greenwich Village, à l'angle de University Place et de la 14e rue, Alberto's était l'un des derniers authentiques diners de Manhattan. Ouvert 24 heures sur 24, le wagon-restaurant en métal attirait, dans une atmosphère rétro, un flot continu de noctambules venus se régaler d'omelettes, de French toast, de hot dogs, de gaufres et de pancakes. L'italo-américain posa un milkshake devant chaque assiette.
« Ce soir, vous êtes mes invités !»
« Non, Jonathan, ne me contredis pas, s'il te plaît. Ce sera sûrement la dernière fois, d'ailleurs. »«
Pourquoi donc ?»«
Moi aussi, ils ont eu ma peau !»
lança Alberto en désignant une affiche placardée au mur. L'avis annonçait aux clients qu'en raison d'une augmentation excessive du bail, l'endroit vivait ses derniers jours et allait fermer ses portes au printemps.
« Je suis désolé, » compatit Jonathan.
« Bon, j'ouvrirai quelque chose ailleurs, »
assura-t-il en retrouvant son humeur joviale avant de disparaître dans sa cuisine. À peine avait-il quitté la table que Madeline se jeta sur son sandwich.
« Je crève la dalle !» avoua-t-elle en prenant une bouchée de son Special One.
Tout aussi affamé, Jonathan ne se fit pas prier pour l'imiter. Ils dégustèrent leur repas en se laissant gagner par le charme du restaurant. C'était un endroit hors du temps, qui mélangeait allègrement des éléments art déco, des chromes rutilants et un mobilier en formica. Sur le mur, derrière le comptoir, une série de photos dédicacées recensait les célébrités, de Woody Allen au maire de New York, venues y déguster un plat de pâtes ou d'arancini. Au fond de la salle, un vieux jukebox diffusait « Famous Blue Raincoat », l'un des plus beaux titres de Leonard Cohen, malgré sa noirceur et ses paroles obscures. Du coin de l'œil, Jonathan regardait la jeune Anglaise dévorer son hamburger.
C'est étrange, la première fois que je vous ai vu, j'aurais juré que vous étiez le genre de nana végétarienne à vous contenter de 2 feuilles de salade par jour.
Comme quoi les apparences, sourit-elle. Il était maintenant plus de 1h du matin. Installés l'un en face de l'autre, sur une banquette en moleskine, ils profitaient de ce moment de répit. Malgré la fatigue, tous les deux avaient l'impression de sortir d'une longue hibernation. Depuis quelques jours, une adrénaline nouvelle faisait courir plus vite le sang dans leurs veines. Jonathan avait quitté l'engourdissement et l'aigreur dans lesquels il s'était glissé depuis 2 ans. Quant à Madeleine, elle avait cessé de se faire croire que sa petite vie sans à-coups la protégeait de ses démons. Cet instant partagé, un peu irréel, était leur œil du cyclone. Le grand calme avant le retour d'une tempête qui ne pourrait être que plus brutale et dévastatrice. Ils ne regrettaient pas leur choix, mais ils savaient aussi que l'inconnu s'ouvrait devant eux. Le vide, les interrogations, la peur. Que se passerait-il demain? Vers quoi allaient les mener leur enquête? Sauraient-ils faire face, ou bien ressortiraient-ils de cette aventure encore plus abîmés? Un portable vibra sur la table. Ils baissèrent les yeux en même temps. Machinalement, ils avaient posé leur téléphone côte à côte. C'était celui de Jonathan que l'on appelait, mais c'est le prénom Raphaël qui clignotait sur l'écran. « Je pense que c'est pour vous », dit-il en lui tendant l'appareil. « Vous êtes gonflé de l'avoir rentré dans mon carnet. » « Je suis désolé. Il m'avait demandé votre numéro. Il ne sait pas que j'ai récupéré le mien. » La vibration se prolongeait. « Vous ne répondez pas ?»« Non, je n'en ai pas le courage. » « Écoutez, ce ne sont pas mes affaires et je ne sais pas exactement ce que vous lui avez dit en partant, mais je pense que vous ne devriez pas laisser votre ami sans nouvelles. »« Vous avez raison, ce ne sont pas vos affaires. » Le portable cessa de tressauter. Jonathan regarda la jeune femme d'un air de reproche. « Il est au courant que vous êtes ici ?» Elle haussa les épaules. « Il pense que je suis à Londres. Chez votre copine Julianne, c'est ça ?» Elle acquiesça de la tête. « Il a dû parvenir à la joindre, » devina Jonathan. Il sait que vous n'êtes pas avec elle. Je l'appellerai demain.
Demain? Mais il doit être mort d'inquiétude. Il va téléphoner aux aéroports, aux commissariats, aux hôpitaux. Arrêtez votre cinéma. Pourquoi pas le plan alerte-enlèvement tant que vous y êtes? Vous n'avez donc pas de cœur, pas de compassion pour ce pauvre type qui doit se ronger les sangs? Vous m'emmerdez. Et puis, Raphaël n'est pas un pauvre type.
Vous êtes vraiment toutes pareilles.
Ce n'est pas parce que vous avez un problème avec les femmes que je dois en faire les frais. Vous n'êtes pas honnête avec lui. Dites-lui la vérité.
C'est quoi la vérité?
Que vous ne l'aimez plus. Qu'il n'était qu'une roue de secours dans votre vie, une béquille qui...
Elle leva la main pour le gifler, mais il lui attrapa le bras, évitant la claque de justesse.
Je vous conseille vraiment de vous calmer.
Il se leva, enfila son manteau, attrapa son téléphone et sortit pour fumer une cigarette sur le trottoir. Le néon de l'enseigne brillait dans la nuit. Il faisait un froid de tous les diables, accentué par des bourrasques glaciales. Jonathan joignit les mains pour protéger du vent la flamme de son briquet. Mais la tempête était tellement forte qu'il dut s'y reprendre à deux fois avant de parvenir à allumer sa cigarette. Furieuse, Madeleine quitta sa place et se fraya un chemin jusqu'au comptoir pour commander un double whisky qu'elle noya dans du jus d'ananas. Dans le jukebox, la voix profonde et rocailleuse de Leonard Cohen avait cédé la place à la guitare rythmique et à la batterie des Beatles. « I need you », chantait George Harrison. C'était une mélodie très « années 1960 », légère et naïve, que le troisième Beatles avait écrit pour Patty Boyd du temps de leur amour bien avant qu'elle ne le quitte pour Eric Clapton. Son cocktail à la main, Madeleine revint s'asseoir à sa table. Elle regardait à travers la vitre cet homme étrange qu'elle ne connaissait que depuis une semaine, mais qui, ces derniers jours, avait occupé l'essentiel de ses pensées au point de l'obséder. Enveloppé dans son manteau, il observait le ciel. La lumière blanche du réverbère lui donnait un air lunaire, vaguement enfantin et mélancolique. Il avait quelque chose de touchant et d'attachant. Un charme simple, un visage qui inspirait confiance. Il dégageait un je-ne-sais-quoi de franc, de saint, de bénéfique. À son tour, il la regarda, et c'est là que quelque chose changea. Prise de frisson, elle sentit son estomac se nouer brutalement. À mesure qu'elle encaissait cette émotion inattendue, son cœur s'emballa, ses jambes tremblèrent, des papillons volèrent dans son ventre. L'effet de surprise la prit de court. Complètement chamboulée, elle se demanda d'où provenait cette agitation, qui la laissait subitement sans repère. Elle ne contrôlait plus rien. Bouleversée, incapable de lutter, elle ne pouvait plus détacher son regard du sien. À présent, son visage lui semblait familier, comme si elle l'avait toujours connu.